Morgan Cadignan avec Alexis Le Rossignol. Tout à l'heure, Tanguy Pastureau. À mes côtés, Daniel Morin. Et aujourd'hui, nos invités, ce sont Trio. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, tout le monde va bien.
Oh, dans deux jours, ça va le bien. Réveillon.
Ah oui, tu attends la bûche,
J'attends
Daniel.
La dinde.
Titre. C'est aujourd'hui, vrai, nous recevons le groupe Trio, plus précisément Christophe Mali et Daniel Bravo. On va jouer avec Trio qui vient nous présenter un album, un livre, Le Champ des Possibles, c'est les 25 ans de ce groupe. Un livre écrit par Bertrand Dical et un très très bel album. Et nous, on va jouer, d'après vous, avec quoi?
Les trios,
ça peut être ça.
Ou les campagnes, ou les hymnes.
Allez, premier titre.
Mes trois nuits,
Morgane,
ouais.
Indochine.
Oh. Ah, je suis avec elle. Et trois nuits par semaine, mais bon Dieu, qu'elle est belle.
C'est
j'adore
parti.
Cette chanson.
Premier point pour Morgane.
C'est dans la nuit de Rebecca.
Deuxième titre, c'est parti.
Oui. Un truc à la con.
Écoutez bien.
Trois petits chats.
Oui.
Trois petits chats.
Deux points pour Morgane. Eh oui, ils sont trois.
C'est de la déduction.
C'est de qui ça?
C'est trois petits chats, c'est la comptine.
Ah oui.
C'est populaire, il n'y a pas d'artiste lié.
Il y a Jacques Brel.
Il y a trois, voilà. Ça suffit pour qu'on le mette dans le blind test. Troisième titre.
Je t'ai dit non, ça ne voulait rien
Morgane,
dire.
Morgane, c'est Céline Dion.
Mais oui.
Trois cœurs.
Trois fois.
Non.
Titre.
3h20.
Ah oui,
3h20. Céline Dion. J'ai eu peur que tu ne reconnaisses pas, je me suis inquiétée.
Si, la voix, si, quand même.
Trois points pour Morgane, les garçons, c'est quand vous voulez.
D'accord.
Là, c'est.
Alors, c'est maintenant.
En ce moment, Morgane performe.
Oui, mais j'aurais pas le super vocal, tu sais bien. On est là pour ça.
Je sais. Non, on n'est pas là pour ça. On va pas se résigner. Quatrième titre.
Des yeux qui font baisser les miens.
Morgane, bah non, c'est pas du tout Edith Piaf.
Un rire qui se perd sur sa bouche.
Bouche. C'est qui? Edith Piaf.
C'est pas Chimène Badi, parce qu'elle fait un concert.
C'est pas en Starmania, ça? Fabienne.
Écoutez. Ah non, c'est LG.
C'est pas loin, c'est un peu l'idée. C'est pas exactement la même
L5.
Musique, en plus âgée.
L5.
Les coquettes?
Non.
Les
je vous aide, il y a Trio dans le nom du groupe.
La Trio magique.
Trio de Belleville.
Des trois nanas, là.
Trio.
Triolisme.
Ouais. Non. Trio, espoir, espérance, ça fait.
Esperanza. Trio, Esperanza.
Wow. Ça, c'est un point pour Daniel. Il est venu de loin, ce point.
Sans que ça soit
le
soufflé.
Trio Esperanza. Bon, allez, on poursuit.
La Manon.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est Marilyn Manson.
Non.
C'est français?
Non, c'est pas français.
Ah, Einstein.
Non. Ah. Vous connaissez nécessairement. Qu'est-ce que je peux dire pour les aider?
Aerosmith, non, tu l'as dit?
Non. Ah, c'est.
Jeff Buckley?
Non. System of a Down?
Non. Ah. C'est anglais? Bon, je pense qu'ils trouveront pas.
Slipknot?
Je pense qu'ils trouveront pas.
Un indice?
C'est compliqué. Il y a partie dans le titre?
Ou alors c'est un titre de Muse, non?
Il y a partie dans le titre du groupe, dans le nom du groupe. C'est pas loin de Muse.
Hein? Garden Party.
Non. J'ai entendu peut-être Morgane. Block Party, bravo Morgane. Absolument, Block Party. Un nouveau point pour Morgane. Et pas facile. 4 points pour Morgane, 1 point pour Daniel. Il reste 2 titres. Et c'est pas facile. Hein.
Trio?
Non. Mais il y a Trio dans le nom du groupe.
Trois cafés gourmands.
Oui. Non, j'y ai pensé, mais non.
Complètement facile.
Trois cafés dégueu.
Trois allongés, un dégât. Hanson.
Non.
Il y a Trio dans le nom.
Ouais.
Ah bah je l'ai pas.
Magic Trio.
Il y a le nom du chanteur, nom, prénom, prénom, nom,
ah,
et trio.
C'est Ben Harper and un truc comme ça.
Non.
C'est pas Nick Cave and the Bad Seed. C'est...
Non, les initiales c'est JB. Jean-Baptiste Bussière.
John
Beck.
Pas loin.
John.
Bah, je vais vous le donner. Hein.
John Berry.
John Beach.
John Butler Trio. Ça vous dit quelque chose?
Non, je préfère être
Daniel, tu connais?
Ouais. Ouais.
Allez, le dernier point. Donc là, je le donne à personne. C'est le Super Banco.
Morgane, Daniel. C'est que mon temps. C'est trois petites notes de musique.
Bravo, mérité.
Bah ouais, t'es pas le seul, vieil âme à cette table.
Non. Et c'est une victoire de Morgane gagnant. Et on accueille nos invités, Christophe Mali et Daniel. Bravo, s'il vous plaît.
France Inter, la bande originale, Leïla Kaddour.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour Leïla,
bonjour tout le monde.
Soyez les bienvenus.
Oh, merci.
Ici dans la bande originale, on est ravis de vous accueillir. C'est la première fois que vous venez à ce micro, chez nous, à la maison. Vous venez nous présenter un album déjà, pour commencer.
Tout à fait.
Chant des possibles et un livre qui porte le même nom que Bertrand Dical vous a aidé à écrire. Un livre qui revient sur l'aventure fantastique de ce groupe, 25 ans déjà, vous n'avez pas pris une ride.
Oh, c'est gentil, c'est gentil.
Il y a des photos dans le, il y a des photos d'ailleurs. On parlera des looks.
On était plus ridés avant. En fait,
ouais, alors en particulier, alors Daniel, c'est assez impressionnant. Je dois dire que Daniel ne bouge pas.
Voilà, Daniel, c'est ça.
C'est les gènes précolombiens, ça.
C'est ça, c'est ça. Daniel est très, très... n'a pas bougé, quoi, n'a pas changé, toujours aussi... Et Christophe, c'est pareil. Non, on va pas commencer par une vacherie comme ça. On va pas commencer comme ça. Pas
si,
possible.
On peut y aller.
Non. Trio, forcément, fait partie de la bande originale de notre vie à tous, avec notamment... Forcément, on l'a tous.
Je suis au lycée.
T'es au lycée. Ou encore l'hymne de nos campagnes, qui a une histoire assez étonnante, on va en parler.
Combien de fois on l'a dit, hein, désolé pour hier soir. Combien de fois on l'a tous dit, ça.
C'est la meilleure excuse de Daniel Morin. C'est tatoué quelque part,
dans
Daniel.
Dans le dos, ouais. Faut chercher.
Il y a aussi sortez-les poubelles. Sortez-les ordures télévisuelles. Sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro. Donnez-nous du pire. Réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût pour les jours. Mais aujourd'hui, on parle aussi de ce nouvel album Chant des possibles avec Aimé. Aimer, ce n'est pas être
simplet. Rêver. Chant de bataille.
Chant de bataille. C'est l'album. Le livre Chant des possibles.
Voilà, en fait, il y a l'album qui s'appelle Chant de bataille et puis il y a le livre qui s'appelle Chant des possibles.
Petit piège.
Mais oui, petit piège.
Chant de bataille. Et il y a aussi sur Chant de bataille, En marche, en replay.
Tiens donc.
Alors ce livre, les garçons, que j'ai beaucoup pris plaisir à lire, commence par... une petite rupture, entre guillemets, même s'il n'y a pas d'embrouille, vous le dites, même si tout va bien. Trio, vous étiez quatre. On va revenir dans l'histoire de Trio.
Allons-y.
Vous étiez trois, mais en réalité, voilà, au bout de 25 ans, vous étiez quatre.
Tout à fait.
Et au bout de 25 ans, un des membres, Manu, vous annonce qu'il veut arrêter.
Exactement. On part sur cet album pendant le confinement, l'album Chant de bataille. Il part en studio avec nous. Donc ça se passe plutôt bien. Et puis, nous, on n'a qu'une seule envie à la fin du studio, c'est de repartir sur scène parce que la scène nous manque, évidemment. Et en fait, Manu nous fait part, de sa fatigue et nous dit, écoutez, moi, je suis amoureux. Il vit une grande histoire d'amour. Et il se dit, moi, j'ai envie de rester à la maison. J'ai plus du tout envie de repartir sur scène, ce qui était le contraire de Daniel. mois. Ou non, c'est, bah, ça tombe mal, nous on a très envie de repartir.
Mais c'est bizarre, il a mis 25 ans pour comprendre qu'il vous détestait.
Ouais, je sais pas, ou 25 ans pour comprendre que le tourbus c'était plus pour lui. Ouais. Ou pour...
Il en avait assez en fait, cette vie-là.
Fatigué.
Il en avait marre, donc du coup, mais il était prêt quand même, à faire la tournée d'été avec nous, etc. Et puis on a beaucoup réfléchi tous ensemble, on a pris cette décision, ils ont écoute Manu, si t'as plus l'envie, ça sert à rien, ça fait 25 ans qu'on est là avec Trio. On nous pose souvent la question. On est là parce que justement on fait naître l'envie, parce que entre deux albums on s'arrête et puis tout d'un coup hop, il y a l'envie de repartir sur scène, l'envie de faire des albums, etc. Si l'envie elle est plus là, ça sert à rien. Donc il est parti, il est très heureux là où il est. Mm-hmm. Franchement, on a des nouvelles. On est très heureux d'être sur scène ici. On va se retrouver à Bercy. Oui, parce qu'il sera là à Bercy.
Voilà, il a promis que Bercy. Il fait partie quand même du plateau, parce que finalement l'histoire d'un groupe c'est aussi ça. Et c'est ce qu'on apprend dans le bouquin. C'est comment on se choisit, comment on se rend rencontre très jeune, la MJC de Fresnes, il y a toutes ces histoires.
La prison, ça crée des liens.
C'est là où ça vraiment
l'unité.
Le monde associatif, cette envie de faire ensemble, cette envie de rendre ce qu'on a reçu. Il y a un truc au-delà de la musique en fait. Dans ce qui est intéressant dans votre groupe, c'est l'association de ces musiciens, de ces artistes très très différents, mais qui vont quand même dans une même direction, qui ont les mêmes idéaux, qui ont quand même les mêmes envies. Et puis un groupe, c'est des moments d'engueulade, c'est des moments où on en a un petit peu marre. Vous, Christophe, vous envoyez un message, vous appelez à un moment les copains pour dire ben, « Moi, ça suffit. Je pense que vous ne me supportez plus. Je pense que je ne vous supporte plus. J'ai envie de faire un petit break », ce qui n'est pas forcément bien reçu par les autres.
Ouais,
mais il y a un moment, c'est important, même dans le collectif, d'exprimer qu'on en a un petit peu marre.
C'est exactement ça. C'est comme dans une histoire de couple. Ouais. C'est comme dans une histoire d'amour. Le parallèle est là. C'est passionnel. Je te prends, je te jette, j'en peux plus de toi. Et pourtant, ma vie sans toi, elle est rien. Et toute ma vie, c'est grâce à toi. Et en même temps, je peux plus te supporter. Et puis, tout ça, ça reste dans une espèce de cuisine, dans l'arrière-cuisine. Alors, c'est vrai qu'avec Trio, on parle assez rarement de nous. Parce que, voilà, il y a le côté, on est un peu le groupe du nous, quoi. On est plus dans le nous, dans le on. Et le jeu, il a un peu de mal à trouver sa place. Et puis, dans cet ouvrage, on s'est un peu ouvert à Bertrand Dical, donc en effet on apprend dans ce livre que le groupe a failli se séparer plusieurs fois, qu'il y a eu un ras-le-bol de Manu au tout début du groupe, qu'à un moment donné c'est moi qui ai pris le large, que les autres du groupe ont failli continuer Trio sans moi et que moi je l'ai très mal pris et que j'étais là mais non, pas sans moi.
Il va-t-il le comprendre
et que Daniel était étonné au tout début de voir comment vous vous adressiez les uns aux autres, c'est-à-dire que c'est peut-être la culture chilienne pour
je sais pas,
mais vous étiez vous disiez que c'était hyper violent les échanges, c'était souvent de la blague, c'était même des blagues sur les mères, et que pour vous, les mamans, on touche pas.
Non.
Eh ouais.
Ah non, pas maman. Non, mais après, moi, en plus, bon, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé à Bobigny, en banlieue parisienne, et donc, du coup, il y a un rapport à la maman aussi très, très. Enfin, tu parles pas des mamans des autres.
Ouais. Et notamment
chez nous.
C'est une bonne règle.
Voilà, c'est une bonne règle qu'on devrait toujours appliquer. Et là, en fait, c'était leur moyen de se détendre. Ils parlaient tout le temps de leur mère ensemble. Je me suis dit, mais ça va pas, les gars. Donc, du coup, il y avait un côté un peu agressif. Mais c'était dans le ton de l'humour. Mais humour que moi, je pouvais pas comprendre. Oui. Mais après, donc, du coup, il y a ce côté un peu rugueux. Mais mon père me disait toujours, quand il y avait des problèmes dans la famille, de la discussion et la lumière. Donc il faut, des fois, de se confronter.
C'est lui le philosophe du groupe, en fait.
T'as vu ça, je vous
avais dit. Et à quel moment vous avez arrêté de cogner vos voisins au bout de combien de temps?
On continue.
Gardez les manches.
Il y a des chansons quand même où vous racontez, par exemple, Serre-moi.
Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi.
Tu vois que tu te racontes.
Jusqu'à étouffer.
C'est la seule occurrence, hein.
Ouais,
en tout cas, directement.
Mais c'est un des beaux exemples, puisque moi, cette chanson qui parle d'une histoire d'amour, donc de quelque chose de très intime et très personnel, je le propose aux membres du groupe sur le deuxième album et ils me la renvoient à la gueule en me disant mais non, c'est trop intime, on n'a pas envie de chanter ça avec Trio. Donc ça prouve bien justement, quelque part, il y a une espèce de limite, l'intime rentré dans le jeu, dans quelque chose de trop personnel. Tout d'un coup, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop faire. On est plutôt les chanteurs fédérateurs, on aime parler de la société, on aime décrire un peu de la société dans laquelle on vit, ce monde qui change, et de l'intime a mis du temps à arriver dans Trio.
Mais ça n'empêche, on peut parler en groupe, on peut chanter la passion, ça n'empêche pas.
Ah bah oui, complètement.
Oui, mais on savait pas faire, on était encore jeunes, je pense pas.
C'est pas simple du coup d'être un groupe dans ces circonstances, on se dit qu'on aimerait bien être en solo parfois quand même.
Bah moi je sais que par rapport à cette intimité, j'écrivais des chansons un peu plus intimes, et puis à un moment j'ai décidé de partir et de faire mon projet solo de mon côté, justement pour chanter mes chansons d'amour, pour draguer des nanas, et pour faire du jeu, du moi-jeu.
Exemple, Caring Square.
dans les jardins de Kerling Square, peuplé d'espions et de voyageurs.
Christophe Mali seul.
Ouais.
Pour l'occasion. Christophe Mali respire.
Ouais, c'est ça. Christophe Mali parle de lui-même.
Et dans cette tonalité aussi un petit peu intime, il y a El Dulce.
Il faudra reprendre la route.
Là, il parle de mon intime.
Là, c'est vous, le philosophe Daniel.
Alors, bah non,
Daniel
non,
Ito.
Non, c'est lui qui a écrit la chanson, oui. Mais il s'est inspiré de mon intimité.
Comme je ne pouvais pas parler de moi, je me suis dit, tiens, le jeu. Non, mais c'est. Non, mais
en plus, il y a l'autre à côté.
Mais vous êtes, insupportable.
Non, bien sûr.
Mais... vous êtes insupportable.
Du coup, je me suis dit, je vais faire des chansons hommage. Donc, El Dulce de Leche, ça raconte vraiment l'histoire singulière de Daniel. Et à travers aussi ça, l'histoire de tous les immigrés, de toutes les personnes qui finalement font toutes les démarches pour obtenir leur papier. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Daniel, c'est que lui, il voulait devenir français pour pouvoir retourner dans son pays,
moi,
pour pouvoir retourner au Chili.
C'est compliqué, hein, les membres de ce groupe. Très compliqué. Hein.
C'est compliqué.
Très compliqué, ce groupe. Très compliqué.
Bon, vous l'avez compris, il y a beaucoup d'amour au sein de Trio. Il y a des histoires comme ça où tout le monde se raconte.
Ça se ressent dans le studio. Hein.
Ouais, ça se ressent. Ouais. Et puis nous, on est ravis de vous accueillir. En revanche, autour de cette table, il y a quelqu'un qui n'est pas très contente parce qu'elle ne vous aime pas. C'est Morgane Cadignan.
Je connais.
Elle n'aime pas l'amour.
Oui, ils connaissent bien l'émission, hein, ces garçons. Attention.
Ah, Trio, je vous aime pas, mais alors, mais vraiment pas. Vous êtes la cause de tellement de choses qui ont dérapé chez moi. Déjà, faut commencer à expliquer, les amis, que vers 15 ans, j'ai eu une dreadlocks. Non, pas des dreadlocks, une dreadlocks, avec un peu de fil de couleur autour, parce qu'après tout, le bon goût, c'est bien, mais ça aide pas à attacher les cheveux. Parce qu'à l'époque, l'hymne de nos campagnes, c'était surtout l'hymne de mes deux feuilles roulées à l'arrache derrière le lycée avant le cours de PS. Putain, fallait nous voir en cours de natation derrière. Prenez exemple sur Morgane, les autres, elle fait très bien la planche silencieusement. Je peux vous le dire maintenant, monsieur Olens, j'étais sûr défoncé. Et vous auriez dû vous en douter quand, une heure après, prenez exemple sur Morgane, les autres, 4 minutes d'apnée, c'est très très fort. Ce qui est fou, c'est que cette chanson, elle est sortie en 98 et que j'avais 8 ans, mais elle était encore à la mode quand j'en ai eu 15, puis elle est devenue un peu culte pour ma génération quand j'en ai eu 18, et après, Rihanna est arrivée, puis là, ça a été 15 années de hier de mon côté. J'avoue, elle a sorti Umbrella, je me souviens plus de rien de 2008 à l'année dernière. Trio, vous avez cette image de Babos Cool qui vous colle un peu à la peau, et en même temps, vous cherchez un peu, les gars. Les surnoms déjà, Gizmo, Manu, Mali, Danielito, c'est quand même des noms de gens qui retapent des vannes pour partir en vacances. On n'a jamais entendu. Gizmo nous a réservé une chambre au Plaza et on dîne avec l'ambassadeur. Non, c'est vrai. Sauf si le Plaza, c'est un festoche dans un champ et que l'ambassadeur, c'est l'ambassadeur du djembé. Là, ça marche. Après, vous n'avez rien demandé. Hein. Vous chantiez juste des chansons cool, rajoutez un accent pseudo-jamaïcain comme des petits soldats du racisme ordinaire. On l'a fait, mais comme des grands de la vie man, du monde animal. Arrête, Isabelle, vraiment. Et c'est fou parce que vous avez 25 ans de carrière et que pour moi, vous êtes toujours des gars de 25 ans. Vous êtes dans tous mes souvenirs de soirée de lycée. Votre héritage, il est partout. Tous les bénévoles d'associations qui vous arrêtent dans la rue pour Médecins du Monde, on dirait vous qui ont fait des enfants ensemble. Je veux pas vous mettre dans une case parce que justement, vous avez passé tout votre parcours à marcher à côté des cases. Mais pour ma génération, vous demeurez à jamais des gens qui décorent leur chambre avec des attrape-rêves. Et c'est comme ça. Et pardon, hein, les gars, mais si je fouille vos poches, bah, je suis pas sûre de pas trouver une brochure pour la libération du Tibet ou un paquet de fleurs du pays. Parce que je sais pas si vous fumez, mais si c'est le cas, c'est évidemment déroulé. Et évidemment que pour dire clope normale, vous dites indus. Et moi, à l'époque, ces gens-là, je les fuyais. Parce que je savais que c'était naturel pour moi de partir avec votre troupeau. Et je jouais la meuf sophistiquée parce que si je m'écoute au fond, bah, je fais partie du groupe, les gars. Regardez ma coiffure, il y a un truc à faire ensemble, quoi. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on vous écoute encore très régulièrement. Il y a un de vos sons qui passe en soirée parce que vous durez dans le temps. Et c'est ça le vrai tour de force pour un groupe. Pardon, hein, mais quelqu'un des nouvelles des Watford? Où sont les L5? Est-ce qu'on a des nouvelles de Tragédie? Je ne crois pas. Vous êtes quasi les seuls à m'avoir fait chanter, puis râler, puis danser, puis chanter. Et maintenant, vous me faites écrire. Je crois que la prochaine étape, c'est de me foutre à l'arrière de votre van. Et je vous préviens, si j'apprends qu'il y en a un qui roule en berline, mais mon enfance, mais s'écroule.
Bravo, Morgane. Voilà.
Allez, chante maintenant.
De la montagne, sans l'accent.
Allez, fais la planche.
Et vous êtes sur scène, Trio. Il y a plein de dates à venir.
Enfin.
Lyon le 18 janvier, au Luxembourg le 19 janvier, alors, à Lille.
On va planquer la thune, là.
Le 20 janvier à l'aéronef à Lille, à Montluçon le 21, à Nîmes le 24, à Chalon-sur-Saône le 29, à Trappes le 30 janvier, à Bruxelles aussi le 31, au Cirque Royal et enfin.
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 Après tant de retard.
Paris. le 12 février.
Après 5 reports.
Où ça ?
À Bercy.
À Bercy.
À Bercy, ah ouais, à l'accord Hôtel Arena, selon, voilà, selon la, ce qu'on veut dire. Voilà, je ne vais pas me fâcher avec qui que ce soit.
Ah oui.
Voilà, voilà. Le 12 février, qui va être vraiment la date que vous attendez depuis très très longtemps. Là, j'imagine que c'est une préparation particulière, un concert comme celui-ci ou pas ?
On prend son téléphone, on accueille tous les artistes, on appelle tous les artistes qui étaient pressentis, qui devaient venir justement il y a, juste avant le Covid. Et donc, je sais pas, là, il va y avoir un tiers du spectacle, vous aurez Trio, et puis les deux autres tiers, ça sera que les invités qui ont marqué les 25 ans du groupe.
Des surprises ?
Plein de surprises.
Alors, on peut dire quelques noms quand même ?
On peut dire quelques noms, je sais pas, bah, il y aura nos amis de Boulevard Désert qui seront là, il y aura toutes les générations confondues, tu vois, donc ça va, il suffit de regarder la tracklisting de l'album des 25. La plupart, non, mais c'est ça, j'ai pas envie de dévoiler.
La surprise.
Ça. Non, mais
faut
ça va aller.
En appétit.
Ça va aller de Véronique Sanson à Alain Souchon, en passant par Gauvin Serres, en passant par Boulevard Désert, Claudio Capéo, plusieurs générations, et puis aussi des personnes où, je pense, les gens s'y attendent pas du tout, mais des personnes qui sont pas sur l'album des 25 ans, mais qui ont vraiment marqué l'histoire du groupe et qui seront là avec nous.
Ah,
on est en train de préparer ça en ce
Michel
moment.
Michel-Édouard Leclerc.
Voilà,
on
prépare la scénographie, Patrick, on prépare Chêne, les invités, on prépare les répétitions.
On n'a jamais autant préparé un concert parce qu'on l'a préparé plusieurs fois.
Bah,
en plus,
forcément. Ouais. Dans le bouquin, vous expliquez justement l'intérêt et vraiment l'attention que vous portez à la scénographie de vos concerts. Vous nous racontez un petit peu comment vous mettez ça en place?
Bah écoute, nous, comment dire, on dit pas concert en général, on dit plutôt spectacle. On envisage ça vraiment comme un spectacle. Ouais. Donc avec des tableaux, il y a souvent des décors. Voilà, il y a des tableaux dans le concert de Trio. Il y a eu la tournée avec l'arbre. On a fait une tournée avec des plantes. On arrive dans le festival avec plein de plantes. On avait même un jardinier avec nous, du coup, pour s'occuper des plantes.
C'était des vraies plantes.
Voilà, on a eu les arbres, etc. Et puis là, on va essayer. On adore aussi explorer une forme scénographique qui est assez peu exploitée, qui est le rond. On a beaucoup fait ça au Cabaret Sauvage. Tout d'un coup, d'être au centre et d'avoir tout le public autour de nous, qui est un peu la formule scénographique la plus naturelle. Quand on se met dans la rue, qu'il y a un spectacle, les gens se mettent en rond autour, mais il n'y a pas beaucoup de salles qui peuvent permettre ça. Donc ça, on l'a fait au Cabaret Sauvage et on va essayer de le faire aussi à Bercy.
Ah ouais.
Ouh là là.
Ouh là.
Ouais.
T'entends la voix, on n'a pas tué encore.
C'était quelle année ça?
Ce petit accent à la Jean Lassalle là.
C'était quelle année?
Oula. C'était en 95.
C'était le siècle dernier.
Moi je devais avoir 16 ans, un truc comme ça. Tu vois, non, c'était vraiment il y a longtemps. Quoi.
Moi j'étais même pas dans le groupe, je crois.
Il y a aussi toi et moi.
Ah, moi. Ça c'est bien après. Dans tout ça. Là, il y a des percussions.
Qu'est-ce qui a changé dans la musique de Trio ? Il y a 25 ans, on l'a dit, 25 ans pour ce groupe. Quel regard vous portez sur l'évolution musicale, sur les arrangements, sur les paroles, sur l'essence même de ce groupe ?
Je crois que déjà dans la musique, on a appris, on a travaillé aussi.
Ouais.
On a appris, on a fait des voyages, on a fait des rencontres. Et on a toujours voulu se surprendre et ouvrir des portes dans la musique.
Est-ce que c'est vous le plus carré musicalement initialement par rapport à votre cursus dans le bouquin, on voit que vous étiez pressenti pour enseigner même les percussions.
Exactement.
Que vous avez amené aussi une forme de rigueur peut-être au groupe.
Je sais pas si j'ai amené une certaine rigueur, mais j'ai une formation classique au départ, donc forcément.
Violon, je crois.
J'ai fait 10 ans de violon. Mm. Oh la vache. Ouais, donc j'ai fait 10 ans de violon et 17 ans de conservatoire, enfin de percussion classique et autres. Mais
j'ai des chiffres parce que là, si on additionne, vous avez 85 ans.
Ouais.
Non, mais il a une crème de jour incroyable.
C'est ça. Ah. Et de nuit.
Et de nuit, c'est ça.
Surtout.
Non, mais en fait, je pense que c'est la combinaison de nos façons de faire qui ont fait progresser les choses. Parce que Manu aussi, qui n'a pas une formation classique, c'est un grand rigoureux dans le travail de la musique et qui a amené aussi une précision dans le cœur, une précision dans le jeu. Donc voilà, je pense qu'on a progressé ensemble.
Et on voit le travail que vous menez, notamment dans le livre, sur les nouveaux titres de l'album Chant de bataille. Par exemple, sur le morceau Féministe, je crois que c'est un morceau qui vous a demandé pas mal de travail pour voir la vitesse. Est-ce qu'on modifie la vitesse ? Je crois que c'est sur ce morceau-ci. Demain,
Bertrand raconte un peu ça parce qu'il était en répétition, etc.
Bertrand Dical qui vous a suivi pour ce livre.
Après, ça, c'est ce qu'il raconte par rapport à cette chanson. C'est je crois qu'il y a une problématique au-delà de ça. C'est qu'en 25 ans, on a un son trio. Tu en parlais tout à l'heure dans ta chronique. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils ont grandi avec nous. Donc, ils ont un son, tu vois, le son très, très acoustique. Ses guitares, ses voix, ses harmonies vocales. Et puis, ses textes assez engagés. Et les gens, comme ils ont grandi avec eux, ils auraient envie aujourd'hui qu'on fasse la même chose. Oui, c'est-à-dire que 25 ans après, ils ont envie qu'on soit encore avec nos guitares en mode totalement acoustique pendant tout un album, etc. Alors que, comme disait Daniel, en 25 ans, tu peux pas durer 25 ans en faisant la même chose. Nous, il y a un moment donné, on a envie de pousser des portes, on a envie de se surprendre. Des fois, on se plante, des fois, on a joué avec des DJ sur scène, DJ, voilà, et on se dit, oulala, on a fait venir des drag queens sur scène, on se dit, ouais, on va rentrer dans un truc un peu électro, etc.
On a fait du pole dance aussi.
Non, on a fait du pole dance.
Et là, c'est vous, Daniel.
Non, mais c'est ça. Et là, des fois, tu te rends compte que tu paumes un petit peu les gens, là, sur cet album. Et d'ailleurs, Féministe en est vraiment un exemple. Tout d'un coup, le son acoustique, on le change, on commence à mettre une guitare un peu électrique, là, qu'on entend derrière, un peu à la Souchon. Et on essaye d'aller un petit peu ailleurs. Et des fois, les gens se disent, oulala, mais c'est plus le trio qu'on connaît.
C'est plus eux, quoi.
Comment on fait, Christophe Mali, pour à la fois continuer à conserver son public qui vous aime, qui vous suit, et aussi se faire plaisir en allant vers autre chose?
Bah, faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire continuer à faire des chansons. Je pense qu'au bout de ces 25 ans-là, on essaie quand même d'affiner l'écriture. Sur les premiers albums, il y a un côté extrêmement frontal dans cette manière dont on va refaire le monde, on est les meilleurs, le point en avant, etc. Et je pense qu'avec le temps, avec Guise, là, la plume, elle commence à s'affiner un petit peu. Et puis on fait aussi ce qu'on a envie. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a pas envie de semer le public, mais on n'a pas non plus envie de lui offrir, tu vois, tout ce qu'il attend directement, quoi.
Oui, mais vous n'avez pas changé, en tout cas. C'est vrai que la dimension engagée est toujours là. Ça n'a pas bougé. Et votre liberté, finalement, dans le bouquin, vous l'expliquez, vous la devez à votre choix de ne pas appartenir, d'être toujours indépendant, d'être libre. Votre rapport aux maisons de disques, il est intéressant de ce point de vue-là. Tout le monde était toujours d'accord au sein du groupe pour être à distance, pour continuer à faire les choix que vous vouliez.
Je crois que ça, au début, ça nous faisait très très peur aussi, les maisons de disques.
Pourquoi?
Bah, parce qu'on connaissait pas aussi, je pense.
Faut remettre en contexte.
Au début, personne ne voulait de vous aussi.
Ouais, alors, au début, personne ne voulait de nous. Et puis, nous, on vient quand même pour, alors, je vais vous souvenir, remember. À l'époque, il y avait les boys bands qui arrivaient. On disait, oh là là, c'est la mort de la musique. Et à côté des boys bands, il y avait Réglisse, mais de l'huile. Il y avait les Champis, Mangez-moi, Billy the Kick. Ces groupes qu'on voyait, nous, dans les festivals, etc. et qui sont morts de la médiatisation. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont fait un tube de l'été et après, c'était fini. Ouais. Enfin, on n'en parlait plus. Nous, quand on est arrivé avec Trio, on a commencé à vendre des albums. Notre peur, c'était de devenir tube de l'été et de disparaître. Donc, directement, les maisons disques, on les voyait comme les grands méchants loups qui allaient nous bouffer tout cru. Donc, on refusait d'envoyer des singles aux radios. Donc, on voulait absolument être en licence, donc être producteur de notre musique. On voulait être éditeur de notre musique. On voulait vraiment avoir le contrôle sur
tout. C'est hyper moderne, déjà.
Pour l'époque, en effet. Et c'est vrai qu'avec le temps, on a gardé cette indépendance. Aujourd'hui, nos concerts, c'est nous qui les produisons. Aujourd'hui, c'est ça le nerf de la guerre pour nous. C'est vraiment les concerts. Quoique, en ce moment, on est un peu privé de concerts, quand même. Et puis là, on a carrément repris la distribution. Ouais. Un peu comme se fait dans le milieu du rap. Mais exactement. Ouais. Par contre, c'est vrai que dans le milieu de la chanson, de la variété, ça se fait pas trop. Aujourd'hui, un album de trio, c'est nous qui le produisons de A à Z. Et on discute directement avec les distributeurs, ceux qui les mettent dans les magasins. Et on est indépendante de la création de la chanson chez nous avec notre cahier et notre guitare jusqu'au moment où le disque est dans les bacs et même le bouquin.
C'est ce que fait un peu Pascal Obispo. Il a poussé le truc un peu plus loin encore avec son application Obispo All Access où il propose du contenu, où il est son entité en fait.
Alors là, un peu sur Obispo, c'est encore quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il est totalement indépendant, mais il est même plus sur les plateformes de streaming, c'est-à-dire qu'il est dans un rapport direct avec le public en disant si tu veux me suivre, dans ce cas-là, tu payes par mois, je sais plus combien.
5 euros,
un peu ce que Saez a fait, etc. Ouais. Et qui est peut-être d'ailleurs c'est peut-être, comment dire, l'avenir de la musique nous réserve, enfin, c'est un peu ce que nous réserve l'avenir de la musique. C'est avoir un rapport direct au public et pouvoir, à travers un abonnement, lui offrir des nouvelles chansons, des choses qui sont pas dans le commerce, mais qui sont directement de l'artiste au public.
Et du coup, les maisons de disques vous font d'autres propositions pour que vous reveniez dans leur giron ou pas?
Ah, c'est une très bonne question.
Je crois pas, non.
Non, je ne crois pour l'instant non, parce que aussi dans le discours, tu vois, on le dit, nous, on est très heureux de faire ça. Bon, quoique le Covid a été absolument redoutable pour nous, parce que la première fois qu'on était en autodistribution, c'était l'album des 25 ans. L'album est sorti, une semaine après, tous les magasins fermés. Donc je veux dire, la première fois qu'on investissait dans un album, tu vois, vraiment entièrement, etc. Bah l'album, bah, il s'est pas vraiment vendu, enfin assez peu.
Compliqué.
C'était assez compliqué. Mais bon, après on est quand même content de ce chemin là et tout. Les maisons disques, elles connaissent notre discours, donc pour l'instant elles viennent pas nous draguer.
Champ de bataille, le nouvel album de Trio qui fête ses 25 ans avec Aimé notamment. On a dansé.
On a dansé. On a chanté.
Et là, tout le monde est debout dans le studio. Attention, voilà. C'est la folie.
Et on continue de danser parce qu'il y a dansé ce soir aussi. Et quoi de mieux que la samba pour danser?
Orpheline enfermée, samba de la cage.
Essaye de faire un petit tour d'horizon, hein,
ouais,
d'album.
Ouais, c'est agréable.
Souviendra longtemps.
Toujours les préoccupations liées aussi à l'environnement. Ta planète, c'est pas la planète, c'est la tienne.
Et toi, qu'est-ce que tu vois?
Pour parler de Daniel, forcément, c'est mon meilleur ami.
Mon meilleur ami, mon sentiment. J'avais dit.
Je n'arrive pas à écrire des chansons sur toi, Daniel.
Juste amusant.
Dites-vous une bonne fois pour toutes que vous vous aimez tous
mais
les deux.
Mais oui, on s'aime, voilà. Ça fait 26 ans.
Je crois qu'il n'y avait pas de place pour le sentiment comme ça, au fait des déclarations.
Là, on parlait de sexe directement.
Ah, ça, du coup, c'est universel. Voilà. Okay. Je comprends.
Vous avez pensé aussi à moi dans cet album, mais vous avez mal orthographié mon prénom.
Ah. Lila, au revoir, à demain.
Le prochain,
oui,
hein,
c'est ça.
Merci. Lila, toi qui reviens de loin. Lila, la reine, Lila.
Merci.
Ça va?
Voilà. Je voulais finir là-dessus. Champ de bataille, le nouvel album de Trio. Et tout de suite dans la bande originale, c'est Alexis Le Rossignol.
C'est pas vrai.
Et si?
Oui.
Alexis.
Oui.
Bonjour.
Une bataille perdue.
Alors hier après-midi, je travaillais dans un bar où j'ai mes petites habitudes, à savoir une carafe d'eau.
Et
à deux tables de moi, il y avait une fille qui était en pleine visioconférence avec ses collègues. Et j'entendais tout puisqu'elle avait dû oublier ses écouteurs. Ou alors elle voulait nous en faire profiter par altruisme, c'est possible aussi. Donc j'étais là pour un petit café et en même temps je jouissais gratuitement du bonheur d'entendre le bruit de fond d'une réunion sur Zoom. Sympa. Ça tombe bien parce que je cherchais un sujet de chronique. Donc la réunion en question, c'était une réunion d'intégration de collègues étrangers au sein d'une entreprise française. J'écoutais pas, hein. C'est juste que j'ai un peu tendu l'oreille, quoi. Et donc l'animatrice lance la réunion par un tour de table en demandant à chacun des participants de se présenter et de dire le mot utilisé dans sa langue maternelle pour dire bonjour. Donc le premier commence, il dit « My name is Fernando » in Portugal, où il sait « Hola ». Et tout le monde « Hola, Fernando ». On aurait dit un cours de langue niveau CE2, quoi. Et l'animatrice dit « Ok, amazing, Fernando. Amazing.
Amazing ».
Il y a des gens qui ont une capacité à s'enthousiasmer que j'envie parfois. Le type a juste dit son prénom et bonjour dans sa langue, c'est pas du tout amazing. Et elle passe au suivant en disant « And what about you ?» Et l'autre répond « My name is Pablo, and in Spain, we also say hola ». Et l'animatrice « Oh, you use the same word in Spain and in Portugal.
Wow.
This is funny ». Dans ma tête, je me disais « Mais si elle trouve ça funny, faut pas lui faire tourner le popper sans soirée à elle, hein, parce qu'elle va boire la bouteille, quoi. » Et donc, plus le tour de table continuait, plus l'animatrice plaçait des amazing partout, et plus je voyais la fille dans le bar se décomposer sur sa chaise en anticipant le moment où elle allait devoir prendre la parole à son tour devant les clients du bar pour dire « In France, we say bonjour ». Alors qu'en France, on dit pas « bonjour » en vrai, on dit « bonjour ». Et à la fin de la réunion, après avoir dit au revoir à tout le monde en souriant, elle ferme son ordi et elle se met à pleurer. C'est venu comme ça tout d'un coup, là. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tourné la tête, tu vois, j'étais là, ben, j'allais pas aller la voir avec MeToo et tout ça, on sait jamais, quoi. Et en même temps, je me suis dit, merde, c'est triste quand même. À quel moment dans la vie on en vient à accepter que la vie, c'est ça? Qu'on vit avec une poker face devant les collègues et qu'on craque dès qu'on les voit plus? À quel moment on accepte de faire semblant que tout va bien parce que les autres ont l'air d'aller bien ou parce qu'à force de jouer les bons élèves, ils le sont devenus, quoi? Le problème, c'est que quand les autres n'ont pas l'air de se poser trop de questions, on en vient à se demander si on est soi-même en droit de s'en poser. Du coup, on garde tout pour soi, puis on craque dans son coin, quoi. En se disant qu'au moins, on se prendra pas une réponse du genre « Mais si tu veux partir, la porte est ouverte. Personne n'est irremplaçable, tu sais. » En fait, j'avais de la peine pour tout le monde dans cette histoire. Pour l'animatrice amazing qui se tapait l'intégration de nouveaux collègues via Zoom, c'est vrai que c'est pas facile, et qui se devait se sentir obligé de surjouer l'enthousiasme pour combler la distance, un peu comme quand tu veux rassurer quelqu'un sur la cuisson de sa tarte, en disant « Mais au contraire, c'est bon le petit goût de brûlé, moi j'adore ça. Regarde, je vais même en reprendre rien. » Et je me force pas. J'avais de la peine aussi pour les nouveaux arrivants dans cette boîte qui devaient se dire « Sérieusement, j'ai signé pour ça, là ?» Mais surtout, j'avais de la peine pour la fille dans le bar qui avait l'air au bout de sa vie. Et là, vous vous dites « Et du coup, tu proposes quoi, Alexis ?» Eh ben, rien du tout. Parce que si ça se trouve...
Merci, Alexis.
Ouais. C'est lui, hein.
Si ça se trouve, elle pleurait pas à cause du boulot, en plus.
Cette pause.
Oh, le petit AVC au milieu.
C'est ça. Il n'y a plus de contact, là.
Ça m'a
ouais, moi aussi.
Amazing. À part ça se trouve, elle pleurait pas à cause du boulot. C'est moi qui ai extrapolé. Elle a peut-être laissé ses clés à l'intérieur de chez elle. Et pendant la réunion, elle avait regardé le prix d'intervention d'un serrurier, puis elle pleurait pour ça, quoi. Ou alors, elle avait pas fait ses cadeaux de Noël à 3 jours. Voilà, bon. Je pense quand même que ça venait du boulot, malgré tout. Donc voilà, j'en parle parce que je voulais partager ça. Parce que ça va pas être facile à vivre, hein. Et quand on est plus de la moitié de ses journées au boulot, voilà, bah c'est dommage que ça rende malheureux, quoi. Au moins, un problème que les chômeurs n'ont pas. Voilà. Hein, Vénère?
Allez. Merci.
Bonne journée, messieurs.
C'était la fin.
Est-ce qu'on peut faire un top 5 de ces chutes?
Mais alors là, je pense qu'on est dans le top 3 avec celle-là.
En tout cas, bon produit d'appel, hein, pour aller te voir en spectacle en République. Le 24 après-demain soir, puis le 30 et le 31 décembre.
Non, c'est pas possible.
Il y a des grandes pauses comme ça pendant le spectacle.
C'est un talent, hein.
J'espère que sur scène, c'est pas exactement comme ça pour vous. Il n'y a pas de pause.
Il n'y a pas de pause. Des fois, il y a des oublis de parole, mais on appelle Nagui et puis, ça, puis ça se résout. Ah, voilà.
On n'avait pas évoqué Nagui.
on l'a fait la semaine dernière, le pauvre, je me suis fait engueuler.
Et heureux sur scène, vous êtes heureux sur scène?
On est heureux.
Comment on décrit cette joie? Non, on n'a pas ce référent-là, finalement.
Ah, c'est une grande
scène
émotion.
Scène de concert.
Je pense que c'est quand t'es privé des choses que tu te rends compte de leur valeur. Mmh. Nous, je sais qu'après le Covid, on est revenu sur scène. C'était en juillet, hein, c'est ça, l'année?
C'est ça.
Juin, juillet.
Enfin, bref,
hein. Non, mais première date, c'était, franchement, je m'en souviens. On est rentré sur scène, mais on en pleurait tellement on était heureux. Tu retrouves les gens et ça fait, tu vois, un an et demi que t'es pas monté sur scène et c'est, voilà, c'est là où tu te rends compte des choses. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Après, voilà, on vit ça en tant qu'artiste. Je pense que peut-être quelqu'un qui a fermé son restaurant, un cuisinier qui le réouvre, il a la même émotion parce que c'est notre vie, quoi. C'est vital. C'est
26 ans d'une vie, quand même. Ouais. C'est... Puis à un moment, tu te dis peut-être c'était mort, quoi. Et de voir que ça reprend, ça.
Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a toujours ce doute-là, quoi.
Pardon, physiquement, faut faire un peu plus attention maintenant qu'il y a 25 ans ou pas pour monter sur scène, pour réussir à...
Qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux dire que pour ta raison, parce que vous faites vraiment des shows, donc pour tenir
dans
un
le
concert,
livre,
une tournée,
dans le
des
livre,
festivals,
c'est dit.
C'est,
dans le livre, c'est dit comment Gizmo.
Est-ce que c'est vous faites plus attention maintenant qu'avant ou...
Comment Gizmo a perdu 8 kilos en arrêtant de manger les tables, tout ce qu'il y avait sur les tables régie, d'arrêter trop de picoler aussi?
Bah franchement, je vais répondre à ta question. Nous, on est des gros fêtards, on continue. Oui, on continue à faire la fête parce que partie une fois aussi de l'ADN du groupe, mais oui, on fait beaucoup plus attention. Évidemment, on fait beaucoup plus attention. Évidemment que quand tu sors de confinement, mais je crois qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui l'ont vécu aussi, et que t'as commencé à prendre du poids, etc. Tu te dis non mais attendez, t'as tellement attendu la scène, c'est un peu comme comme François Hollande qui se prépare au présidentiel. Tu vois ce que je veux dire? Te dis bon, je vais remonter sur scène, etc. Donc oui, tu fais gaffe.
Ouais. Tu peux pas avoir évidemment la même hygiène de vie qu'il y a 20 ans. Quand vous verrez les images.
Et quand on voit les petits jeunes, quand on accueille les petits jeunes en première partie.
On a vu les images, on a vu les photos, on a vu les coupes de cheveux aussi, on a vu, vous êtes cherchés capillairement tous autant que vous êtes.
Et c'est pas fini.
On va se promener dans la bande originale de votre vie. On commence en 95.
Tombé du ciel.
Oh, Jacques.
Rebelle aux louanges. Chassé par les anges.
Ça, c'est vous, Christophe, qui écoutiez Jacques Higelin. Tombé du ciel. Il y a une très belle histoire avec Jacques Higelin.
Jacques Higelin, c'est l'histoire de ma vie. Moi, je serais pas là si j'avais pas rencontré à un moment donné de ma vie Higelin. À la radio, d'abord, j'entends Tomber du ciel. J'ai une espèce de déclic. Ensuite, je deviens fan d'Higelin. Mais quand je dis fan, je m'habille comme lui, je chante comme lui, je parle comme lui, je joue du piano comme lui, je compose comme lui.
Vous l'appelez même au téléphone?
Et je l'appelle, j'arrive à avoir son numéro au téléphone. Et même, non, c'est pas ça. Je l'appelle et je l'appelle. Il me dit, on n'appelle pas chez moi. Il raccroche. Et je prends le métro, je laisse un mot à mes parents. J'avais 16 ans à l'époque et je me pointe chez lui. Voilà, Jacques, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui as sonné tout à l'heure. T'as du culot, toi. Je viens de chanter des chansons à moi, donc je commence à lui chanter des chansons chez lui. Et puis après, je le suis, quoi. Je le suis pendant 10 ans et toute ma vie artistique. Après, je fais partie d'une troupe qui s'appelle le Dictionnaire de la Vie, une troupe de théâtre. J'ai rencontré la présidente de cette troupe, justement, par l'intermédiaire d'Higelin. Et puis ensuite, je le suis pendant, voilà, jusqu'au jour où un directeur de festival nous dit avec qui vous voulez jouer, trio, ça commence à cartonner. Là, j'ai fait écoute. Fais-nous un concert
avec Jacques Higelin, un plateau avec Jacques Higelin. Et là, Jacques arrive, découvre Trio, me voit et dit « Ah, mais toi, arrête de me coller !» Et voilà, et après, c'est devenu mon voisin, et c'est devenu mon ami, et puis voilà, quoi, c'est toute mon histoire artistique.
Et vous, Daniel, à cette époque-là, vous écoutiez ?
Oh oui !
J'adore !
Je crois que c'était sorti cette année-là, cet album. C'est le deuxième album. Ouais. Il était sorti à cette année-là. Et ce titre, avec ce clip et tout, moi, j'étais complètement fasciné par cette femme et son charisme. Et sa voix, enfin, le premier album, tout. Moi, j'étais un grand, grand, grand fan. Et bon, c'est une année aussi, j'ai toujours écouté beaucoup Peter Gabriel, mais c'était une vraie découverte oui. dans le monde de la musique pour moi.
On est en 95, c'est la création de Trio. Tout se fait, en Andorre, lors d'une rando, un groupe de copains, vous partez en randonnée plusieurs jours, je crois que vous êtes 19, une grosse troupe, et vous jouez le soir, vraiment la scène classique, quoi, limite autour du feu.
C'est ça.
Et vous commencez à adapter les chansons en reggae, et ouais. tout le monde s'y met. Et ça donne Trio, donc initialement c'est vous, Christophe, c'est Manu. C'est Gizmo.
Tout à fait.
Et premier concert à la MJC de Fresnes.
On savait même pas que enfin, moi, quand j'ai vu une affiche de Trio, je savais même pas que je faisais partie du groupe. Hein, donc, c'est le directeur de la MJC qui a appelé ça Trio. Enfin, non, ils appelaient ça Trio Trio. C'est le directeur qui a mis le Y. Et puis, c'est nos potes qui me font, ah, franchement, c'est vachement bien. Comme vous avez fait cet été, là, vous en prenez un parti, ça va être vachement sympa et tout. On a répété vite fait. Et... Donc, en fait, Trio, le groupe, c'est le public qui l'a créé. Il y a 25 ans, c'est pas nous.
Ouais. Et Trio avec un Y, pourquoi? On sait pas.
Ça lui a trouvé pas. Ça joli. C'est le Ouais, qui a mis en Y comme ça.
Précisément, le logo Trio, parce qu'il est vraiment identifié, il a été fait dès le début comme ça.
Ouais, il a été fait par une amie à nous.
Lorraine.
Lorraine, tout à fait, qui démarrait dans le graphisme. Ouais, parce qu'elle est assez importante dans l'histoire, enfin, en tout cas, dans l'imagerie de Trio. Et voilà, non, elle a trouvé ça directement, mais à aucun moment elle s'imaginait que c'était des feuilles de bœuf. C'est ça qui est fou. Non, mais vraiment, parce que ouais, pour ceux qui voient, c'est papier craft avec un espèce de petit logo avec des feuilles. Quand elle analyse les feuilles, elles ne sont pas dentelées comme des feuilles de cannabis. Et elle ne fumait pas. Et donc, pour elle, ce n'était pas des feuilles de bœuf du tout. C'était le côté plutôt de nature.
C'est végétal.
Voilà, c'était végétal. Alors que dans la tête des gens, ça a toujours été, attention, comme il y avait la main verte comme titre,
les gens voient ce qu'ils veulent voir.
Voilà. Alors que si on analyse, non, ce ne sont pas des feuilles de bœuf.
Alors, initialement, Trio, c'est la rencontre de Manu et Gizmo. Ensuite, c'est la vôtre, Christophe. Vous prédestiniez à être plutôt comédien, j'ai la sensation. En tout cas, le théâtre, la scène, dans votre bio, c'est un truc qui compte énormément.
Bah, c'est exactement ça. Je faisais de la musique. Moi, j'ai fait de la musique parce que je voulais ressembler à Jacques Higelin. Mais sinon, j'étais intermittent d'abord en tant que comédien. Et puis, j'ai fait pas mal de troupes, etc. Et je me prédestinais à ça, vraiment. Et puis, donc, je faisais mes études de philo en même temps parce qu'il fallait toujours garder ses arrières, ce que me disaient mes parents. Et puis, un jour, Trio m'est tombé sur le coin de, voilà. Et puis, m'a pu donner le choix de faire autre chose que de la musique.
Et c'est vrai que l'entrée aussi de Daniel dans le groupe, c'est que on avait quand même un noyau dur, Manu, Gizmo. Vous êtes le troisième, et donc c'est pas mal de rééquilibrer les forces.
C'est exactement
ça. En allant chercher un percussionniste qui était aussi indispensable, parce que quand on pense reggae, on pense aussi percussion.
Tout à fait.
Ouais. Ça leur a vraiment amené le succès, en fait.
On peut dire. Mais c'est ce que vous dites dans les interviews, vous êtes tout seul, vous dites sans moi, ils ne sont rien.
Non, moi je dis que c'est un groupe de percussion avec des choristes. Hein,
c'est la force. Hein,
on passe à l'année 98, et vous écoutiez Christophe.
Je chante un baiser. Je chante un baiser osé sur mes lèvres déposées.
Souchon revient souvent. On a parlé tout à l'heure de la chanson féministe et justement, dans les indications, vous dites « Ah, j'aimerais une sorte de guitare à la Souchon ».
Tout à fait.
Ça fait partie de vos références.
Oh bah complètement, des grandes références. Je pense que là, on écoute le baiser, je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, des auditeurs qui font « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson ». Ça fait partie des 5 plus belles chansons aujourd'hui. En plus, moi j'adore les plages du Nord, donc voilà, les plages du Touquet, les plages... Et quand j'écoute cette chanson, j'y suis totalement. Souchon, voilà, c'est... En plus, on a la chance, voilà, c'est devenu un ami aujourd'hui, même avec sa famille, on est très très proche d'eux. Et puis voilà, en tant qu'auteur-compositeur, voilà, il suffit d'aller voir un concert de Souchon pour se rendre compte un petit peu le répertoire incroyable. Et puis aussi cette capacité à chanter l'amour, à chanter la douceur, toujours avec énormément de pudeur et aussi être dans l'engagement, vraiment.
Et vous, Daniel, vous écoutiez Massive Attack, indépassable.
Ça parle tout seul. Alors moi, en fait, je suis arrivé à la chanson française très tardivement.
Ah ça, on voit un peu la différence quand on entend les deux BO.
Mais en fait, c'est avec eux que j'ai appris à écouter la chanson française. À fond, moi, j'écoutais que
Après, j'ai 5 grands frères, donc j'écoutais, tu vois, Genesis, Jet Trotul, tous ces trucs-là. Et quand j'écoute Le Baiser, j'y suis arrivé très tardivement, et c'est un bonheur. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais plus Massive Attack.
Et en 98, c'est la sortie du premier album de Trio, Mama Goubida, c'est ça ?
Tout à fait.
Un album qui va rencontrer un succès assez incroyable. À cette époque-là, il y a l'hymne de nos campagnes, forcément, qu'on entend. Et il y a aussi Pour un flirt avec la crise. Ça fait partie des titres qui ont pas mal circulé. Pour un flirt avec la crise, c'est ça.
Tu finiras cuit sur
les petites voix. Les petites voix. Et le son.
Avec la crise. Et dans ton flirt avec la crise.
Un album qui parle aussi de choses très sérieuses, même si on a une musicalité, légère, un tempo, quelque chose de très souriant, de très dansant. C'est aussi une des caractéristiques de Trio, c'est savoir aborder des sujets sérieux, que ce soit France Télécom, la Révolution, penser à la Révolution verte aussi, ouais, avec l'hymne de nos campagnes, les lois sur l'immigration.
Ouais, tout à fait, on retrouve toutes ces thématiques aujourd'hui qui sont encore là, hein. on les trouvait déjà il y a 25 ans. Ouais.
Et sur la classe politique, et ce qui est intéressant avec Regardez-les, c'est comment vous avez fustigé un certain nombre d'hommes politiques, de dirigeants, et que vous voyez récompensé par Jean Tiberi en 98 par le Grand Prix de la ville de Paris dans la catégorie chanson française. Comment on va récupérer sa récompense? Qu'est-ce qu'on dit ce jour-là?
Ah oui, j'étais en béquille, je m'en souviens même pas. Je sais que c'est un dilemme, est-ce qu'on y va pas, ça je me souviens que c'est une discussion, mais la soirée en elle-même, je m'en souviens pas, je t'avoue. Franchement, je m'en souviens pas.
En tout cas, cet album rencontre un grand succès parce que vous dépassez rapidement les 400 000 albums, sans promo, sans médiatisation, en réalité très très peu. C'est
ce qui est fou. Ce qui est fou, c'est que à l'époque, on l'analyse maintenant comme ça, mais à l'époque, t'as donc plus de 400 000 personnes qui achètent l'album, mais 400 000 personnes qui sont persuadées d'être le seul à l'acheter.
Comment ça?
C'est-à-dire que
il n'y avait pas Internet à
l'époque. Il faut quand même, on passe pas du tout dans les médias. On est extrêmement frileux sur les émissions, donc on accepte les émissions de live qui veulent bien de nous. À l'époque, c'était Nulle Part Ailleurs, c'était la seule émission de live qu'on a fait à l'époque, et donc on passe pas du tout dans les médias, et donc c'est le bouche à oreille qui fonctionne. À l'époque, Louise Attaque cartonne en radio, Sensi Milliam marche aussi, Matmata, pour remettre un petit peu dans le contexte, et Trio fonctionne parce que Trio vend des albums, mais Trio ne passe pas en radio et Trio ne passe pas sur les médias, et donc toutes les personnes achètent cet album en disant oh là là, c'est un truc que personne ne connaît, et en fait ils sont plus de 500 000
ils sont complètement plantés.
Voilà, et après c'est cette dynamique là qui est voilà, déjà une société où le bouche à oreille fonctionne, c'est une société quand même qui fonctionne, parce que ça veut dire que voilà,
qui communique
etc. Et nous on a fait toujours hyper gaffe à ça, parce qu'on s'est dit voilà, il faut pas qu'on trahisse notre public par rapport à nos choix, par rapport à notre présence dans les médias, voilà. Et donc à chaque fois, comment dire, c'est ce qui nous a aussi forgé, quoi. Voilà, par rapport à tous les choix qu'on peut faire.
Et rapidement, une autre date qui m'intéresse, c'est 2005-2006. Je reste en ta douleur, et tous ceux qui n'ont plus rien. Wow. Camille, ta douleur, et pour ça, c'est pour vous, Christophe Mali, et pour vous, Daniel. Jenny Wren could sing. On n'est toujours pas sur la chanson française. Ah, hein,
non, pas effectivement. Mais je te dis, je suis arrivé tardivement.
Longtemps après.
Je sais pas, c'est Daniel, quand on passe ses titres, il pousse un petit cri, il est content.
Non, mais ça me fait du bien.
Daniel est content, d'une nature contente. Ouais,
ça, déjà, mais ça me fait toujours du bien de réécouter ces chansons. C'est magnifique, macarné, quoi.
Et vous fêtez les 10 ans de Trio à cette époque-là. 1 million d'albums vendus, un album solo pour vous, Christophe, on l'a évoqué. Et aussi, ce geste-là. Ça, c'est Trio, c'est décider de vendre les 4 albums dans un coffret pour 10 euros.
J'avais oublié.
T'es sûr que c'était pas plus?
Non, c'était pas plus. Bah ouais, bah
merde
après.
Alors.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'on est encore une fois. On s'est fait avoir. Non, on est producteur de notre musique, on peut se le permettre. Et puis aussi, pendant ces 25 ans avec Trio, on a toujours fait hyper gaffe au prix.
Au prix des places
de concert, au prix des places du CD, etc. On peut avoir un regard là-dessus. Comme on fait extrêmement attention au coût de production de nos albums, au coût de production de nos spectacles, comme on a la tête dans le guidon, les mains dans le cambouis, on fait hyper gaffe à ça, donc on sait aussi la difficulté que c'est pour la culture et pour les gens d'acheter des albums quand c'est trop cher.
Pour parler de vous, on a demandé à Aline Afanoukoé de nous rejoindre. Bonjour Aline. Vous faites
bonjour
partie de la maison.
Bonjour,
ouais.
Bonjour.
Vous bonjour. Officiez du lundi au jeudi à 5h36 dans la playlist de France Inter. Vous parlez de l'actualité musicale. Vous participez aussi à l'émission Par Jupiter. Aline, bref, vous êtes à la maison, vous le savez. Aline, est-ce que vous pouvez nous parler de la place que Trio occupe dans la chanson française?
C'est un groupe très particulier, Trio, qui tient une place vraiment à part sur la scène musicale parce qu'ils font de la musique à message, en fait, qui véhicule de vraies valeurs. C'est le groupe de chansons reggae en France le plus populaire et à la fois le plus underground. Alors, ils l'ont dit, ils ont une façon de communiquer qui est plutôt basée sur le bouche à oreille. On est un peu plus dans l'artisanat que dans la grosse machine de marketing bien lourde. Et ça fonctionne parce qu'ils s'adressent directement à leurs auditeurs, à leurs fans et aux curieux aussi qui ne connaîtraient pas encore Trio, parce que Trio, c'est de la musique qui s'inspire de l'actualité et qui voilà, qui a le ton de transmettre des messages d'humanité avec des images très fortes et qui sensibilisent le public sans violence. Enfin, ça dépend des titres. Voilà. C'est vrai qu'ils sont uniques dans leur genre.
Et Aline, est-ce qu'il y a des héritiers de Trio?
Alors, dans les héritiers, moi, spontanément, je dirais que, j'ai pensé à Big Flo et Oli.
Oui. Très juste.
Même s'ils sont plutôt rap, mais je les associe pas mal à Trio. Une chanteuse comme Zaz aussi. Après.
Oui, Aline.
Je me dis qu'il y a des ramifications qui se sont faites dans la musique, par exemple engagée. Aujourd'hui, on peut parler de Gaël Faye, de Angèle, d'Eddie de Préto, qui sont un peu sur les mêmes thèmes et qui les abordent sur d'autres sonorités. Mais voilà, ça vient aussi de ce qu'a pu apporter Trio sur la scène musicale française. Et d'ailleurs, je pense que vous avez déjà collaboré, vous avez déjà partagé des scènes de festivals ensemble. Et voilà, je dirais que c'est comme ça une galaxie qui s'est créée. Il n'y a personne comme Trio, en fait, aujourd'hui.
Voilà, ça c'est la meilleure des conclusions, ah ouais, Aline Afanoukoé.
C'est très difficile, franchement. Je ne peux pas vous comparer à qui que ce soit d'autre aujourd'hui.
Merci Aline Afanoukoé. Aline, je t'aime gros, tu sais.
Bah, nous aussi, du coup.
Nous aussi, on t'aime gros, Aline.
Mais la cadeau, on a passé ensemble.
Merci beaucoup, Aline Afanoukoé.
Ouais, moi, tu me saoules. Ouais.
Merci d'être venue dans la bande originale, Aline. On va s'intéresser à présent au héros du jour. Et le héros
absolument
des jours, c'est avec Daniel Morin.
Ah, oui, c'est comme ça. Et aujourd'hui, 22 décembre, mon héros du jour aurait très bien pu être Arnold, le tailleur du Père Noël. Pauvre Arnold, chaque année à la même époque, c'est la même histoire. À 2 jours du début de la tournée, le Père Noël demande à essayer son costume et bien sûr, comme il ne fout rien le reste de l'année, il a pris entre 20 et 30 kilos, un peu comme Trio pendant le confinement. Alors du coup, il est tout boudiné dans son costume rouge et blanc, et ça, le blanc, quand tu prends du cul, ça pardonne pas. Alors, il gueule le Père Noël, il est là. « Mais bon Dieu Arnold, vous avez encore foiré la température de lavage de mon costume, il a rétréci. Regardez-moi, c'est pas possible, on dirait une fille de mauvaise vie qui a trop tapé dans le Nutella. Je ressemble à Maria Carré. Remettez-le à la bonne taille, Arnold, je commence à tourner dans 2 jours. Merde !» Et Arnold fera encore comme si c'était sa faute et rajoutera du tissu pour que le Père Noël puisse faire sa tournée sans ressembler à une andouillette qui traverse le ciel. C'est extrêmement charitable. Et oui, on a l'image. C'est extrêmement charitable de la part d'Arnold. C'est même héroïque. Mais non, Arnold n'est pas pour autant mon héros du jour. Non, mon héros est carrément une famille animale. Oui, mon héros du jour, c'est la volaille. Pourquoi la volaille? Eh bien, tout simplement parce que chaque année, à la même époque, c'est la même histoire, la même ritournelle, c'est la même tragédie. Des élevages sont touchés par la grippe aviaire, elles sont des centaines, elles sont des milliers, petites ou grosses, elles, ce sont les cocottes. Des cocottes qui attendent résignées leur pas de fin d'année pour être sacrifiées sur l'autel de la ripaille, où une fois cuits, leurs blancs et cuisseaux seront déchiquetés par les bouches avinées d'une populace en liesse. Tout ça, parce que c'est le bout du calendrier. Eh bien, comme si ça ne suffisait pas. Cette promesse de génocide à plumes. Il faut encore que la maladie vienne se greffer là-dessus. La grippe aviaire, un virus issu de la promiscuité imposée par les hommes. Et là, il en suffit d'une pour que tout l'élevage soit condamné. Se mettent-elles en grève pour autant, les cocottes? Non, jamais elles ne font ça. Elles restent dignes et fières. La crête triste, mais
pardon,
jamais baissée. Elles n'étaient pas enchantées à l'idée de rôtir entourées de patates et une gousse d'ail fourrée à la dans le croupion, c'est vrai, mais c'était son destin de cocotte de Noël. Là, elles vont mourir, nos cocottes, mais elles vont mourir pour rien, laissant tout au plus échapper un... Quand l'assassin vétérinaire viendra les voir pour leur offrir un ticket
vers le Cocotte Paradise. Et on dit un comportement héroïque. On a raison de le dire pour ces cocottes. Du coup, j'en appelle de façon solennelle à Julien de Normandie, notre ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Julien, mon Juju, tu es au courant. En cette époque de fête qui devrait rimer avec joie de vivre, elles sont des milliers à attendre le trépas. Elles, ce sont nos cocottes, nos amis de la filière volaillère. Des cocottes à qui on ne rend jamais hommage, encore moins honneur. Je demande donc qu'entre deux gros repas de fête, c'est-à-dire le 27 décembre, que cette journée soit déclarée journée nationale de la cocotte, le Cocotte Day. Elles le méritent, ce sont des héroïnes, monsieur le ministre.
Merci Daniel Morin.
Oui.
Tanguy Pastureau est également avec nous. Tanguy, de quoi on va parler tout à l'heure?
Je vais vous parler des Pères Noël de centres commerciaux aux États-Unis. Il n'y en a plus. Il y a pénurie à cause du Covid. Ils sont morts.
C'est triste. Le retour de la bande originale avec Morgane Cadignan, avec Alexis Le Rossignol, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Bonjour.
Et nos invités trio, s'il vous plaît. Hey. Daniel Bravo, Christophe Maly au micro de la bande originale pour nous parler de leur nouvel album Champ de bataille.
Mes parents, oh mes chers parents, je ne vous ai rien dit tout ce temps. J'étais le nul, j'étais l'idiot, accroché au porte-manteau. Je priais qu'on me laisse tranquille.
Ça, c'est pas vous,
de toute l'école,
Christophe.
J'étais la cible.
Comment ?
Ça, c'était pas vous, Christophe, le nul à l'école ?
Non, c'est pas autobiographique.
Ouais.
Non, c'est une thématique, ça parle du harcèlement scolaire, c'est une thématique qui, moi, me touche depuis très très longtemps. Donc j'écris un texte là-dessus, c'est Charles Ours qui a fait la musique. Et puis voilà, on parle de cette thématique, on a fait un grand live là, il y a pas longtemps, parce que voilà, on en parle assez rarement. Faut rappeler quand même que dans les collèges, etc., c'est un fléau, le harcèlement aujourd'hui, qui mène à des histoires brisées, des destins brisés, et puis aussi à des suicides. Voilà, on est très proche d'une association qui s'appelle Marion, la main tendue, qui est à la base créée par Nora, qui est la maman de Marion, donc qui s'est donné la mort en 2013. Et puis aujourd'hui, elle lutte pour changer les choses, pour faire des interventions en milieu scolaire, pour créer des maisons de Marion. Il y en a une qui a ouvert dans le 13e à Paris. Donc on a relevé des fonds, là, on a fait tout un... Voilà, pour parler un petit
vous
peu...
Vous avez fait un Insta-live,
ouais. Avec énormément d'artistes, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, on s'en rend compte finalement, qui sont touchés par le harcèlement, parce qu'ils l'ont vécu. On peut parler d'Olivia Ruiz, on peut parler de Sanseverino, il y a plein de gens. Antoine, le créateur de Mortel Adèle, par exemple, on apprend que son personnage est né de ça aussi. Donc après, il y a des gens qui arrivent comme ça à rebondir sur ces destins un petit peu brisés pour en donner quelque chose d'artistique. Mais on n'en parle pas, alors on en parle pendant la journée mondiale, la journée nationale du harcèlement. Il y a quand même des formations qui sont faites dans les collèges, les lycées, etc. Mais voilà, nous, au-delà d'une chanson, on avait un petit peu envie de mettre l'accent, de mettre la lumière là-dessus.
En marche, en replay.
Là aussi, la dimension engagée, hein, ça fait quand même un lien, on continue, on poursuit.
Complètement.
Le prince à majesté. Les alliés sont les ennemis, les ennemis, les alliés.
On reconnaît la voix de Gizmo.
Qui vous embrasse bien fort.
Alors Daniel, en revanche, vous ne chantez pas.
Non, j'ai pas envie de les humilier.
Mais je fais quelques chœurs.
Oui, c'est ça.
Ça m'est déjà arrivé, mais
déjà, pas...
C'est-à-dire que les percussions, c'est déjà tout un univers à maîtriser avec ses membres. Donc après, la voix, voilà, c'est un autre travail.
Ouais.
Et puis, ils le font déjà très, très bien.
Ouais.
Donc, y a toujours eu trois voix. Ça va, c'est très bien.
Ça suffit comme voilà. Ça, pas besoin d'en rajouter.
Exactement.
Si vous écoutez
et puis, il
bien...
y a l'accent en plus. Donc...
Si vous écoutez bien sur la chanson féministe, il chante à un moment donné. Mais il chante vraiment, c'est pas juste des chœurs, on entend vraiment sa voix devant. Mais
non,
si,
bah c'est
si.
Un cœur, c'est un
si, si, bah écoutez, vous écouterez.
On va repérer
et
le
moment. Et quand tu l'écoutes, tu te dis, il faudrait qu'il arrête.
C'est ça.
Alexis.
Donc, vous n'avez jamais été tenté de faire des chansons donc en espagnol comme Manu Chao un petit peu pour pouvoir vendre à l'étranger, toucher des publics.
Non, on n'a jamais même traduire nos chansons en anglais pour cartonner aux États-Unis, on n'y a jamais pensé.
Par contre, en allemand.
En allemand, on est parti en allemand.
C'est pas forcément pour cartonner, mais étant donné que tu as des origines chiliennes,
oui, ça pourrait
y avoir une.
Alors Guise,
un attrait quoi.
Guise, il parle très bien l'espagnol.
L'hymne de nos campagnes en espagnol.
C'est l'hymne de nos campagnes.
Oui, c'est vrai.
Ça va être compliqué. Avoir de la gueule.
Oui, mais le problème c'est les rimes. Ça rimerait pas pareil.
Mais faut écrire un petit peu.
Voilà,
écrire. Mais ça pourrait le faire.
Mais moi je suis pas contre l'idée. Je trouve ça plutôt intéressant.
Il y en a qui l'ont fait Sting l'avait fait.
Oui.
Tu vois, et c'était pas forcément la meilleure idée qu'il ait eue. Peter Gabriel, il l'a fait en allemand, c'est pas la meilleure idée.
Mireille Mathieu aussi, c'est beaucoup trop.
C'est du roots en espagnol, moi je le vois bien.
Ouh là 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 là.
Le roots.
Oui, peut-être, mais même en espagnol, je suis pas sûr que ça passe. Enfin, c'est une autre culture musicale.
Il y a greenwashing aussi dans les grands classiques de Trio.
Ça passe en espagnol, tu vois, ça c'est facile en espagnol.
J'imagine que ces grands tubes, vous allez les jouer sur scène.
Oui, bien oui. sûr.
On vous les demande.
On vous les réclame. Et puis on aime les jouer, très très simple aussi. On aime les jouer. On n'a pas fait un concert sans jouer l'hymne de nos campagnes. Depuis
26 ans.
Ouais, et en fait, l'hymne de nos campagnes, bah, c'est con, mais je sais qu'il y a des artistes qui se lassent de leurs chansons. Nous, pas du tout. Ouais. Et le jour où on s'en lassera, bah, on l'enlèvera du répertoire, tout simplement.
Tout simplement, ouais. Tout simplement. Trio avec ce nouvel album, Chant de bataille, 25 ans du groupe, et un livre, Chant des possibles, écrit avec. La complicité de Bertrand Dical qui vous a suivi un petit peu, vous lui avez ouvert les portes. C'est pas trop compliqué pour vous d'ouvrir les portes à Bertrand Dical?
Non, c'était un bonheur
une fierté
et un bonheur.
Fierté.
Et puis il est tellement intéressant et une culture musicale incroyable. Donc beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions pour le livre et aussi plein de choses, d'anecdotes tellement intéressantes avec lui. C'est un vrai bonheur.
Et le bonheur, il arrive tout de suite sur France Inter, c'est Tanguy Pastureau.
Oh, le bonheur, Tanguy, il est là.
Il n'est pas habitué à des lancements aussi gentils, c'est pour
J'ai toujours adoré les centres commerciaux, parce que ce sont des endroits où on peut acheter aussi bien du taboulé que des slips. Au risque de confondre parfois, il m'est arrivé d'essayer le matin d'enfiler du taboulé et aller ensuite retirer tous les grains de semoule de vos draps des fesses. Il faut être très patient, c'est plus dur qu'un puzzle de 1000 pièces représentant un tableau d'Yves Klein. Alors je sais, vous dites quoi sur France Inter, radio éco-responsable? Je rappelle que Daniel Morin est en réalité un compost à qui on a appris à parler. Cette enflure de Pastureau fait l'éloge des centres commerciaux. Eh ben oui, parce que l'être humain est complexe. On peut être pour la planète et se déplacer en jet, comme le dit souvent Leonardo DiCaprio à sa fiancée, la petite Jessica qui est en troisième.
Non.
Ah, les centres commerciaux, voilà un endroit où on peut être vraiment soi-même. On n'a pas beaucoup de sous, on va chez Célio. On n'a pas beaucoup de sous et on est vieux, on va chez Devred. On est raciste, on file à la quinzaine du blanc et on est déçu quand on voit qu'en fait ce sont des housses de couette à moins 50. Et s'il n'y avait pas les centres commerciaux, nos entrées de ville, ce serait trois ânes et deux vaches dans un champ en train de patauger dans la gadoue. Ce serait glauque. Mais là, le roi Merlin, Jiffy, Casa, tous ces néons, c'est magnifique. C'est Las Vegas. Pour moi qui enfant vivais à la Cambrousse, le centre commercial, c'était l'accès à la civilisation. Quand on allait à la cafétéria Marest, on disait à la dame, on va prendre la formule entrée, plat, dessert, bah ouais, louloute, on est samedi soir. Hein, la grande vie, je me posais au fond de la cafette, sur la banquette. J'avais l'impression d'être Tony Montana. Une fois, j'ai même sniffé le sachet de sucre fourni avec le café. Je déconseille. Ou alors pensez à retirer le sucre du café, du sachet en fait, avant. Et la période que j'ai toujours adorée au centre commercial, c'est celle des fêtes. Parce qu'il y a le Père Noël, ce monsieur barbu en rouge qui ressemble à Anne Romanoff si elle avait pris pas mal d'hormones. Et on peut se prendre en photo avec. Alors ça s'est modernisé, maintenant il fait des selfies avec les gosses en les checkant et en leur disant « Wesh, ça va ou bien les petits bâtards ?» Mais avant, c'était mignon. Moi, petit, il me faisait peur ces Pères Noël. Je me mettais à pleurer, je criais « Non, je préfère aller voir le monsieur là-bas » en désignant un homme à collier de barbe qui tripotait dans une symbolique phallique un distributeur de bonbons pèse en se léchant les lèvres. Parce que non, j'avais du mal à distinguer le bien du mal. D'ailleurs, j'ai longtemps regardé Ushuaïa en me disant « Voilà un mec super hein, ». J'étais tellement fasciné par Nicolas Hulot que sur un de ses tournages, j'ai tenté de me faire passer pour un aigle juste pour qu'il me remarque. Je m'étais collé des plumes, j'ai mangé un lapin vivant, j'ai passé 12 jours à couver des œufs. Hein, si j'avais su ce qu'il aimait vraiment, j'aurais juste mis une jupe et du rimmel. Mais quel con ! Mais quel con ! Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur du Père Noël parce que j'ai été pris en charge psychologiquement par la personne qui a aussi géré Loana et Daniel Evenou. Donc, je suis prêt à retourner à Carrefour avec vous, chers membres du groupe Trio, parce que je crois que vos valeurs sont l'argent et l'hyperconsommation. Mais peut-être que je confonds avec Zaz. Seulement hier, je lisais Courrier International, le journal des gens qui en aura le cul de la France. Et un article dit qu'aux États-Unis, le pays où on se tire dessus pour se dire bonjour, ce qui est une forme de geste barrière, il y a une pénurie de Père Noël. Tous les centres commerciaux en cherchent rien. Mais alors pourquoi? Eh bien l'article explique qu'à cause du Covid, des centaines de Pères Noël sont morts. À cause de leur âge, puisqu'on prend des vieux, de leur poids, puisqu'on prend des gens en situation d'obésité, le vrai Père Noël doit déjà en être à sa 7e dose, tellement il a de comorbidité. Et ceux qui restent en vie ne veulent plus le faire, puisque selon un sondage, 30% expliquent avoir à prendre sur leurs genoux plusieurs centaines d'enfants par jour. Hein, moi, un chat qui monte sur les miens, je lui crie déjà « Barre-toi, minouche hein, !» Pourtant un chat, c'est plus mignon.
mignon qu'un enfant. 31% se sont déjà fait faire pipi dessus par des enfants. L'émotion, sans doute, ça provoque ça. Hier, on a reçu Chantal Goya, 1,7 litre. J'ai lâché sur moi. Enfin, 88% se sont fait tirer les poils de la barbe pour voir s'ils étaient vrais. Et personne ne dit rien. Alors que vous tripotez les seins d'une femme pour voir s'ils sont vrais, direct, on vous colle un hashtag MeToo, quoi. Super! Un deux poids, deux mesures. Mais on n'en peut plus du matriarcat. Bref, aux États-Unis, on manque de Père Noël. Joe Biden pourrait faire le job avec une fausse barbe, mais il est occupé à être président américain. Enfin, pour faire comme dans les films, sans doute. Hein. Il n'avait pas assez de poils pour imiter le Mugwai dans Gremlins, donc bon, président. Du coup, certains magasins se rabattent sur des Pères Noël ethniques. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont en lin. Hein. Ça, c'est pour les Sarwell ethniques. Non, ça signifie non-blanc. Et c'est une vraie révolution. Les magasins de fringues Old Navy, par exemple, en embauchent. Alors, il y a des Pères Noël d'origine jamaïcaine, avec des dreadlocks plein la barbe, entourés de lutins défoncés, qui chantent Could You Be Love. Ils ont pris des Pères Noël latinos, hein, qui parlent espagnol, comme dans la Casa de Papel. Tu vois, ils disent aux gosses, tu peux m'appeler Tegucigalpa. Ouais, ok, c'est trop compliqué. Bon, appelle-moi Oslo, espèce de loser. Bon, fini le Père Noël blanc. Ce qui est bien, parce qu'aux États-Unis, la moitié des enfants de moins de 15 ans sont issus de minorités ethniques. Donc, si tu es philippin, tu as du mal à te projeter dans l'image du Père Noël, déjà parce que tu sais, toi, où sont faits les jouets. Et pire, il y a aussi aux États-Unis une pénurie de costumes de Père Noël. Une annonce de recrutement disait « à fournir ses propres bottes de cuir et ses lunettes à monture métallique ». Et là, je ne sais pas trop si les gens qui ont ça chez eux ne présentent pas un profil un peu inquiétant, franchement, pour être Père Noël. Mais bon.
Bravo, Tanguy Pascal.
Vive Noël.
Tanguy, vous pourrez retrouver à la Bourse du Travail à Lyon le 28 janvier.
Oui.
Et Trio en concert aussi. Il y a pas mal de dates à partir du 18 janvier. Lyon, le Luxembourg, Lille, Montluçon, tout Nîmes, Chalon-sur-Saône, Trappes, Bruxelles. Et enfin, le final, le 12 février à Paris, Accor Hôtel Arena. On parle de tournée, on parle aussi de cette chanson.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes.
La dimension écologique, la prise de conscience, il y a déjà de nombreuses années, justement, comment est-ce que vous appréhendez les tournées, le fait de se déplacer,
de polluer la planète.
Vous consacrez un chapitre à cela dans le livre. Vous mettez en place, vous incitez à du covoiturage, je crois, pour les spectateurs, pour rejoindre les dates.
On l'a fait au début, en fait. C'est-à-dire que quand on a fait le bilan carbone de notre tournée, à un moment donné, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on pouvait se situer et tout. Et c'est à ce moment-là qu'on a essayé de prendre des mesures, donc par rapport aux LED, par rapport aux gobelets en plastique. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est complètement naturel d'avoir les gobelets en plastique ou les recycler, mais se souvient finalement, il y a même une dizaine d'années, c'était pas du tout le truc. Donc quand on est arrivé dans les salles et qu'on avec nos gobelets en plastique et notre camion, ouais, réutilisable, etc., les gens nous regardaient un peu comme des fous. Donc c'est le LED, etc. Et aussi on a essayé d'inciter au covoiturage, mais ça
parce que finalement les émissions de gaz carbone viennent plus du déplacement du public. Je crois que c'est 80%
exactement.
Sur le bilan que vous avez tiré de votre tournée.
Exactement, c'est toujours le cas d'ailleurs. Alors nous on fait des tournées, on continue à faire des tournées. On pollue quand on fait des tournées. Il y a un groupe international, là, je crois, qui a décidé d'arrêter de tourner. Ah oui, c'est ça. Ouais. Nous, c'est pas du tout notre.
Ça risque pas. On va pas s'arrêter de tourner.
Oui, oui, oui. Non, mais chaque Aponc aussi s'est posé ces questions-là. Et chacun a mis en place des solutions à son échelle.
C'est ça. Non, mais c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Et puis aussi d'inciter les gens, d'essayer de bouger un petit peu les lignes et tout. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Trio tout au long de ces années. Alors, des fois, ça se fait. Je sais que le covoiturage, tu sais qu'on offrait des places, aux personnes qui pouvaient venir en covoiturage, etc.
Mais pas quand même.
Non, mais c'était il y a plus de 10 ans. Les gens ne voulaient pas. C'était un échec total. Donc après, on a été voir carrément les serveurs de vente de billets en disant, mais en fait, il faudrait que ça soit intégré carrément à la vente de billets en ligne, etc. Et avec le temps, finalement, c'est ce qui s'est fait. Et puis on essaie, voilà, de faire un peu bouger. Là, en ce moment, on n'est plus sur les concerts inclusifs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que des concerts signés pour les sourds, pour les malentendants, etc. Ça fait pas du tout partie de la norme en France. Qu'on a un retard considérable par rapport aux États-Unis, par rapport à la Belgique, par rapport à plein de pays en Europe où les gros festivals, par exemple, sont toujours traduits, où il y a des aides aussi pour les producteurs de spectacles, etc., pour faire venir justement le kit avec la personne qui l'a signé, etc. Donc ça, on se rend compte qu'on a un retard de fou quand on a la tournée des festivals qui a été annulée justement à cause du Covid. On avait préparé tout un truc là-dessus pour montrer aussi aux directeurs de festivals que c'est possible, que nous on pouvait le faire et tout. Après, c'est un coup, il n'y a pas encore de subvention et d'aide de l'État par rapport à ça, mais on peut changer les choses. C'est-à-dire comment tout d'un coup la marche peut devenir la norme. Nous, on en a été une preuve avec Trio. Et par rapport au concert inclusif et par rapport à la place du handicap dans notre société, je pense que dans le milieu culturel, il y a plein de choses à changer.
Hey, toi, qu'est-ce que tu vois?
Qu'est-ce que tu vois?
Hey,
Le nouvel album de Trio, Champ de bataille, Ta planète ou encore C'est bon ? Je n'ai pas encore passé balisé.
Balisé, banalisé, pas mal analysé.
Pas mal, pas mal, pas mal.
Balisé, banalisé, pas mal analysé.
Pas trop mal.
La vie passe vite, alors vas-y, vite ta vie.
Est-ce que vous continuez à travailler sur de nouveaux titres sans cesse, en permanence ? Dans le bouquin, vous expliquez un peu, chacun arrive, amène des choses, et puis là, il y a la magie qui opère finalement, et puis progressivement, un morceau se dessine, et vous le répétez, et vous le choisissez éventuellement pour le mettre sur un album.
C'est ça. Après, sur la création, c'est Gizmo et moi qui écrivons les textes, on a un processus de création qui est assez différent, assez solitaire, en tout cas tous les deux. Ça nous arrive de coécrire, et puis je sais que Giz est très prolixe, donc lui, il écrit très régulièrement des chansons. Moi, c'est plus par phase, en fait. Je me dis, tiens, il faut sortir un album, je vais commencer à écrire des chansons. Mais j'ai toujours des chansons, moi, dans le crâne, parce que j'ai toujours des thématiques. On parlait du harcèlement scolaire, ça fait très longtemps que je voulais écrire une chanson sur le harcèlement. Donc moi, j'ai toujours des thématiques qui me trottent, et puis j'ai pas encore trouvé l'axe. Donc j'y bosse un peu constamment aussi.
Et là, votre et sur quelle thématique ? Est-ce que c'est indiscret de le demander ?
Merci. Écoute, non, ouais,
merci, oui, d'accord.
Non, c'est pas du tout indiscret. Quand on a fait le livre avec Bertrand Dical, il a aussi une version analytique de Trio. Mmh. Et il nous a dit, vous savez les gars, c'est incroyable, vous faites partie quand même dans les auteurs-compositeurs, les seuls auteurs-compositeurs qui n'ont jamais écrit de chansons sur leur enfance. Gizmo et toi, en général, tous les auteurs, ils ne peuvent pas s'empêcher de parler de leur enfance, de ce qu'ils ont vécu, de leurs parents. Voilà, c'est le Mistral gagnant de Renaud, mais il y en a plein d'autres. Non, mais c'est vrai, et il nous a dit ça. Donc avec Gizmo, c'est on n'a jamais écrit sur notre enfance et on a fait un morceau pour enfants avec les Ogs de Barbac qui s'appelle Mamselle Bulle, qui a été voilà, il y a eu un super retour sur ce truc. Donc là, en ce moment, la thématique sur laquelle on est en train de travailler, Guise et moi, c'est l'enfance, chanson pour enfants, mais aussi notre enfance.
Ouais. Et dans le livre justement de Bertrand Dical, Trio, Chant des possibles, non seulement il vous donne la parole, chacun a ses paragraphes, chacun se raconte, et puis il y a ce récit qui encadre de Bertrand Dical, qui raconte ce qu'il observe, qui donne aussi son point de vue en tant qu'expert musical sur l'évolution du groupe, sur la couleur musicale. Et cet album, Chant de bataille, et toutes ces dates de tournée, voilà dans l'actualité de Trio. Mais que se passe-t-il d'autre ?
Rien.
Il n'y a rien du tout dans l'actualité. Que se passe-t-il d'autre dans le monde de la culture ? Eh bien, un groupe va se reformer pour un album, Le Retour des Rois. Est-ce que vous connaissez éventuellement ce groupe qui va se reformer ? Les membres de ce groupe ont fait tous de grosses carrières solo.
Section d'assaut.
Bravo, Section Daniel.
Oui. Alors, j'avais vu ça. Ouais.
10 ans après le précédent album.
Ah, Daniel, t'as un côté bad boy. Section d'assaut.
Ou alors, il a une très bonne vue parce qu'il a vu sur ma fiche. La vue, je sais pas. Ouais. 10 ans après l'album L'Apogée, Le Retour des Rois. T'attendais ça avec impatience, toi, Daniel, bien sûr. Est-ce qu'il y a des groupes comme ça que vous aimeriez voir se reformer ?
Quand j'ai vu Police au Stade de France, quand ils se sont reformés, moi, j'aurais jamais cru les voir. C'était un grand bonheur. Quel groupe ?
Oh bah nous aussi on va passer pour les vieux cons, mais c'est vrai que quand
ne dis rien.
À l'époque t'avais des groupes comme La Tordue qui était dans toute la lignée des Tetraed, etc. Ouais. Voilà, que moi j'aimais beaucoup parce que ça c'est une sorte de chanson française. Et puis dans le reggae, dans le reggae français, il y a tous les cas de Riddim de l'époque, etc., qui ont beaucoup marqué Mister Gang, etc., qui pourraient aujourd'hui revenir sur le devant de la scène, bien sûr. Après les groupes, tu sais, souvent on nous dit comment vous avez tenu 26 ans, c'est rare les groupes. En plus, avec les membres originels, en général, on se prend la tête soit pour des histoires de meufs, soit pour des histoires de thunes. Hein. On est en route, quoi. Et c'est un peu on dit ça pour déconner, mais c'est souvent ce genre de problème qui arrive. Et nous, on l'a toujours dit d'ailleurs avec Trio, faites gaffe.
Aux meufs ou alors ?
Non, mais même par rapport à la
j'aurais adoré voir Genesis avec Peter Gabriel.
Ah, vous êtes un grand fan de Peter Gabriel.
Ce groupe-là,
sans arrêt.
Est-ce qu'il y a conflit dans le tourbus ? Est-ce qu'il y a conflit dans le tourbus pour savoir qui met la musique ? Et parce que vous venez d'horizons très très différents, vous avez une grosse référence de chansons françaises.
Ah bah moi c'est quasiment que chansons françaises. Moi j'ai appris tout ce qui est anglophone.
À ce moment-là je vais me coucher, moi.
Voilà. Donc comment on gère ?
Ça
dépend des horaires. Ouais, c'est ça. Bah quand t'es entre 3h et 5h du matin tout seul dans le tourbus en train de manger des madeleines, lui il écoute du Peter Gabriel en boucle. Et puis Gizmo et moi, voilà, on écoute du Renaud ou du c'est la fête. Oh là là, on comprend pourquoi Manu est parti.
Madeleine et Mistral gagnant.
Mais Manu, vous retrouverez... mais Manu, vous retrouverez sur scène à Paris, le 12 février. Et ça, c'est la date qu'il faut retenir. Exactement. Avec plein d'autres dates au mois de janvier. Je vous invite à aller sur le site de Trio, où vous retrouverez toutes les références. Et puis sur le site de la bande originale, avec vos playlists à chacun pour mieux vous connaître et être complètement fan de Peter Gabriel ou de Souchon, mais Barbara. Oui, voilà. Je crois que ça compte. Higelin aussi, Higelin, bien forcément, sûr, ouais. Dans la bande originale de la vie de Christophe Mali. Et ce livre de Bertrand Dical, Chant des possibles, que faut-il vous souhaiter pour la suite Trio, brièvement?
Oh, pas de mauvaises nouvelles par rapport à la culture et par rapport aux salles. C'est ouais, vraiment sale, voilà. Parce que franchement, on en a énormément souffert. On n'est pas les seuls. Beaucoup d'artistes en ont souffert. Et je parle dans la musique, mais aussi dans le théâtre, etc. Et là, ça reprend. On a une responsabilité d'artiste. Nous, c'est d'être prêts. C'est ce qu'on a essayé de faire. Je pense que le public a aussi une responsabilité. C'est que sans le public, il n'y a pas de culture. Et nous, quand les concerts ont repris, les festivals ont repris, on s'est dit, c'est génial, les gens vont revenir en masse, etc. Mmh. Et puis, ça n'a pas été le cas. On s'est rendu compte qu'il y a une habitude qui a été perdue. Donc voilà, je pense que la responsabilité des artistes, c'est de vous faire rêver. Et la responsabilité du public, c'est aussi de se déplacer, de venir voir les artistes parce qu'ils vous le rendront bien, quoi qu'il arrive.
On finit sur un message d'amour. Aimer.
L'amour.
Dans Champ de Bataille, le nouvel album de Trio. Et il est temps de vous présenter des excuses,
oui,
Daniel, à toi.
De présenter des excuses en général. Et déjà, désolé pour Nicolas Demorand, Léa Salamé, Augustin Trapenard, Dominique Seux, Aline Afanoukoé, à tous les polytoxicomanes de cette radio, qui après avoir appris la venue de Trio ce matin, se sont précipités vers le studio pour, je cite, se mettre carré à la weed. Oh, doucement les gars, c'est pas le style de la maison. Et puis, désolé, Leïla a déjà tout fumé, c'est trop tard. Désolé pour Trio, qui pensait, en toute logique, se retrouver face à Nagui ce matin. Alors, je vous comprends, mais quand il a vu votre nom sur le tableau de la programmation de l'émission, il m'a dit, entre deux rires sataniques, mais vous voulez ma mort ou quoi? Alors, lundi, c'était la BD, ce qui est trop dur pour moi à lire. Mardi, Chantal Goya et ses chansons de drogués. Et aujourd'hui, Trio et ses torchons gauchos, bobos, écolo, bio. Vous vous foutez de ma gueule, je suis un mec de droite, je suis exigeant. Fin de citation. Désolé pour la haine, la violence, le racisme et toutes les valeurs qui ont été cruellement absente de l'émission de ce matin. C'est vrai, ça ne nous ressemble pas. Heureusement, on se rattrape dès demain avec la très sadique et cruelle Alexandra Lamy qui sera là pour nous mettre des torgnoles.
Merci Daniel. Merci à vous Christophe Mali, Daniel,
dames.
Bravo. Merci les amis autour de la table pour ce moment. Et on se retrouve, je ne sais pas pourquoi j'ai dit merci pour ce moment.
Rien, bah, oh, si c'était beau.
Allez donc voir Trio sur scène. Il y a un très bel album, il y a un très beau livre. Merci demain. C'est Alexandra Lamy.
Ben oui.